Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020 que Dieu a fait. Parashat Noach. Et je voudrais essayer d'expliquer le pourquoi du déluge et l'intérêt d'avoir construit, et cela pendant 120 ans, l'arche. D'abord, depuis la faute d'Adam Harishon, le monde s'est divisé. Il est rentré dans la lettre Bet. Il est donc passé du Aleph au Bet. Le Yud d'en haut du Aleph s'est détaché du Vav et en fait il s'est détaché de notre monde, c'est-à-dire qu'il était de moins en moins perceptible. La vision devenant de plus en plus floue, les 10 générations qui ont précédé Noé sont quelque part tombé dans le monde de la faute, mais dans le monde de l'obscurité. C'est-à-dire que chacune des actions que l'homme ou la femme faisait était une action qui était séparée de l'autre. C'était une action qui était séparée de la volonté première, et donc elle avait tout son sens. Elle avait malgré tout les forces de la raison. Elle avait malgré tout les forces de la nature. Elle avait malgré tout les forces de la pensée. Et la faute de Adam Harishon, ça a été en fait de séparer la pensée de l'action. La pensée qui vient de la tête, que la tête reçoit, et qui va diffuser à chaque membre du corps, à chaque organe du corps, par les canaux, qui sont des canaux de transmission, qu'on appelle en fait le VAV, et qui vont permettre la réalisation, par le côté féminin d'Adam Harishon, de la volonté première. Et cette dynamique s'est quelque part déstructurée. Le monde de la pensée et le monde de l'action se sont quelque part séparés, et donc le côté féminin est rentré dans le monde du plaisir, c'est-à-dire de la matière, mais cela sans aucune limite. Et pour sauver son monde, en fait, HaKadosh Baruch Hu n'a pas provoqué le déluge pour l'ensemble de l'humanité, puisqu'il a sauvé Noach et sa famille, et chaque couple d'animaux. Et chaque couple d'animaux, chaque membre de la famille de Noach, eh bien, avait pour mission de récupérer le bien qui était enfoui dans chacune de ces générations qui ont été détruites. Dans chacune de ces générations qui a été, si vous voulez, entraîné dans le monde du plaisir, du désir, sans aucune limite. Elles étaient fondées sur le travail, sur la fonctionnalisation des tâches, mais séparées de la volonté suprême. Mais elles étaient quand même reliées à une certaine forme de bien. Et c'est cette certaine forme de bien qu'on retrouve dans l'arche et qui va propulser l'arche jusqu'à la fin des temps de l'histoire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'arche de Noé, eh bien, se trouve en Israël. Chaque point cosmique qui a été, si vous voulez, la source du bien au temps d'Adam Harishon, qui s'est retrouvé en fait dans l'arche de Noé et qu'on retrouve aujourd'hui en Eretz Israël, était obligé, si vous voulez, de passer par l'ensemble des civilisations. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule bien entendu, c'est une des raisons importantes, cruciales même, de la présence d'Israël en Galoute, chez les nations, c'est que Israël représentait en fait cette part de bien qui permettait aux nations de survivre, malgré les tempêtes de l'histoire, malgré les guerres, malgré les famines, malgré tout ce qui a pesé sur les nations, elles étaient là, si vous voulez, pour vivre aussi l'évolution des civilisations. Autant féodal, autant antique, autant de l'industrialisation, aujourd'hui, les Juifs des nations ont vécu les différentes dynamiques de civilisation avec leur transmutation. Et c'est pour ça que lorsque l'État d'Israël se refonde à partir de 1948, eh bien, il va vivre le communisme, le socialisme, je dis ça évidemment d'une manière mélangée, l'ultralibéralisme, le libéralisme, etc., etc., le capitalisme social, toutes les formes d'organisation économico-politique qui permettent à l'humanité et qui ont permis à l'humanité de survivre. Mais nous, on le vit ici, à partir de Jérusalem, en accéléré. Parce qu'il a fallu, par exemple, 150 ans pour passer du monde industriel au monde post-industriel. En Israël, il n'aura fallu qu'une quinzaine d'années. Par exemple, 10 fois moins de temps. Mais il n'empêche que dans cette arche, qui est aujourd'hui l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël moderne, dans cette arche réside l'ensemble des autres mondes de l'histoire. Et le premier qui a perçu l'importance de l'arche, c'était Noé. Noé étant évidemment l'ancêtre de l'universel, le premier en fait à se raccrocher, si vous voulez, à se reconnecter à la divinité première, va porter par les 7 lois de Noé l'universalisme. Et ça, c'est, vous voulez, très très important. Parce que lorsque l'État d'Israël sera arrivé au terme de sa fonction en tant que nation, et que le Machiav ben David va apparaître, le Machiav ben David va se retourner non seulement vers les pères, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, David, etc., mais aussi à Noé. Et Noé représente, si vous voulez, l'humanité repentante qui va reproduire en synthétique les autres mondes qui ont été déchus et qui va porter en lui non seulement la renaissance du monde, la renaissance de cette création, une nouvelle création, mais aussi et surtout la reconnaissance de la présence de Dieu dans ce monde. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Nous avons donc des nations qui sont ennemies de Dieu, qui font tout pour empêcher Noé, si vous voulez, l'arche de se former, de naviguer. Ce sont toutes les diffamations anti-israéliennes d'aujourd'hui, ce sont les diffamations anti-sionistes, c'est la haine, c'est la violence qui va porter, en fait, la fin de ce monde. On disait qu'au temps de Noé, le monde avait atteint un niveau de Hamas. Alors le Hamas, entre parenthèses, qui règne à Gaza aujourd'hui, le Hamas, c'est une violence. C'est pas seulement une violence physique, c'est une violence sourde, presque rusée. Une violence liée directement au vol, au gezel. On va essayer de s'enrichir aux dépens de l'autre, mais avec le sourire, avec, si vous voulez, l'amour, entre guillemets, de l'humanité. On va se présenter à l'extérieur comme étant humaniste, universel, mais universel humain. Mais à l'intérieur, on sera redoutable par des techniques que sont des techniques marketing extrêmement développées et malheureusement connues. Eh bien, ces techniques vont assujettir l'homme, empêcher l'homme de comprendre qu'il y a un plan derrière tout cela, et l'assujettir à la consommation, l'assujettir à la matière, l'assujettir au super profit, l'assujettir à ces pulsions internes qui sont des pulsions que Dieu a créées, bien entendu, mais que Dieu a créées pour le bien et non pas pour l'esclavage et l'esclavagisme du monde et non pas pour le mal. Alors, cette arche qui conduit aujourd'hui vers la résurrection, vers la messianisation du monde, vers la délivrance finale, cette arche, malgré tout, toutes les tempêtes, est en train de voguer vers son but, vers sa dynamique. Alors, quelle est, en fait, la dynamique de cette propre histoire? La dynamique de cette propre histoire, c'est de reconquérir quelque part le Aleph. C'est-à-dire de le reconstituer, bien qu'il soit évidemment constitué d'une manière tout à fait cachée, mais au niveau de ce monde, au niveau de l'apparence, de le reconstituer et de le placer au centre du Pardès, c'est-à-dire du Gan Eden, c'est-à-dire du Pshat, Remez, Drash et Sod, ce qui signifie que lorsque le Aleph sera reconstitué, eh bien, chacun d'entre nous, chacun à son niveau, qui ont, si vous voulez, participé à cette arche de Noé, chacun va former à l'intérieur de lui-même son propre Aleph, sa propre unité. Et c'est exactement ce que Dieu veut, parce que Dieu réside en chacun d'entre nous. Dieu réside en chacun des Hébreux qui retournent sur sa terre et qui, grâce à cela, va resplendir la lumière divine dans le monde, au niveau des nations repenties. Et donc, si vous voulez, pour finir, en Eretz Israël, il y a des résidus de toutes les époques, depuis évidemment Adam Harishon. Il y a des résidus de toutes les périodes. Nous trouvons ici, par exemple, des Juifs qui ont vécu comme on vivait dans l'Antiquité. Par exemple, au Yémen, dans les années 50, les Juifs qui sont arrivés du Yémen ne connaissaient pas l'électricité, ne connaissaient pas l'eau courante. Ils vivaient exactement comme on vivait dans la Haute Antiquité. Et progressivement, ils vont se développer à l'intérieur de cette arche et ils vont créer un courant qui est un courant de complémentarité par rapport aux autres époques. Et cette arche va réunir l'ensemble des époques, que ce soit l'Antiquité, le monde féodal, le monde moyenâgeux, le monde pré-industriel, le monde post-industriel, etc., etc. Et ça, c'est la force d'Israël. C'est pour ça que le kibbutz galouyot représente véritablement le retour non seulement des deux tribus perdues, mais le retour des 10 tribus qui ont été dispersées au temps de Nabuchodonosor et même avant. Merci beaucoup.